Bonsoir, je crois que je ne suis pas le seul à être très heureux d'accueillir Svetlana Todorov aujourd'hui. Je suis heureux à plus d'un titre, d'ailleurs, je suis aussi très impressionné, bien sûr. Alors, à plus d'un titre, d'abord, tout simplement parce que je ne sais plus à quel âge j'ai lu des livres de Svetlana Todorov pour la première fois. C'était avant mon hypocagne, en tout cas, ça j'en suis sûr. Quand j'étais en hypocagne, et en cagne d'ailleurs, ce livre était encore ce qu'on appelle un best-seller, je crois qu'il l'est resté. Vous voyez, ça, ces petits coups de marqueur, comme ça, vous voyez, durée, pause, ellipse, scène, style direct, souligné, fréquence, récit répétitif, discours itératif. J'ai été élevé avec ce livre-là, entre autres, et avec d'autres du même acabit. Et un jour, j'ai lu ceci aussi. Critique de la critique, un roman d'apprentissage. Et j'ai commencé à découvrir que le Todorov de ma jeunesse n'était pas simplement une machine à analyser les procédés textuels et à s'interroger sur la littérarité du littéraire. Littérarité est un terme d'ailleurs que Svetlana Todorov a créé à l'occasion d'une traduction d'un texte de Jacobson en français, qu'il n'était pas seulement un analyste des... Bon, je ne sais pas quel terme conviendrait, mais disons des procédés formels de l'écriture, mais que de plus en plus, il s'intéressait de plus en plus ouvertement aussi au contenu, aux valeurs et aux valeurs de vérité des textes. Ce changement qui ne lui est peut-être pas apparu aussi frappant qu'à nous, ses lecteurs, s'est manifesté de façon éclatante avec la publication de ce livre-ci, La conquête de l'Amérique, que certains d'entre vous ont peut-être lu. Et si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande, comme je vous recommande d'ailleurs tous les ouvrages de Svetlana Todorov que j'ai eu le plaisir de lire depuis, même si je ne peux me défendre d'un regret parfois, parce que les analyses de Todorov en matière littéraire étaient toujours, et restent, puisqu'elles sont publiées, d'une acuité de pensée admirable, et que si je me suis passionné pour les lettres, comme beaucoup d'autres de ma génération, c'est largement à ces textes-là et à ces analyses que je le dois. Svetlana Todorov a choisi aujourd'hui, j'ai dit à plus d'un titre. L'autre titre, c'est que nous sommes ici depuis maintenant 5 ou 6 ans, je ne sais pas exactement, à inviter des écrivains à parler d'autres écrivains. Nous avons accueilli beaucoup de romanciers et de romancières, nous avons accueilli quelques poètes, pas de poétesse, je ne crois pas, en 5 ou 6 ans. Du point de vue générique, c'est à peu près tout. Nous n'avons jamais invité de dramaturge. Je ne sais pas à quel titre générique nous invitons ce soir Svetlana Todorov, mais il est invité. Du fait qu'il est invité ici et du fait qu'il se trouve sur cette scène et assis devant vous ce soir, il vient s'ajouter à une liste de personnalités, d'artistes qui tous étaient identifiés sans équivoque comme écrivains. Je pense que Svetlana Todorov lui-même récuserait le terme ou ne l'accepterait pas sans une de ses analyses dont il a le secret, mais en tout cas, du strict point de vue de la théorie des ensembles, je suis très heureux que Svetlana Todorov ici soit ce soir et ne fasse pas exception parmi l'ensemble des invités que nous avons accueillis depuis déjà plusieurs années. C'est vraiment comme écrivain que depuis quelque temps, avec ses derniers ouvrages, je lis Todorov. Et non pas simplement comme penseur, analyste ou professeur. Ce qu'il a dit de Barthes vaut aussi pour lui. À mesure qu'il avance, le grain de sa voix, la particularité de son écriture, se dégage de façon toujours plus nettement personnelle, sans que cela ôte rien évidemment à l'acuité de ses, et à la rigueur de ses analyses. Il serait quand même un comble que son souci de vérité s'accompagne d'une perte en intensité de son écriture. Mais bon, évidemment, cette introduction un peu longue, vous la comprendrez, n'a d'autre excuse que mon émotion d'accueillir un homme que je lisais quand je n'avais pas 20 ans et de le voir aujourd'hui assis près de moi et qui m'a dit il y a quelques instants qu'à mon insu, il m'est arrivé d'intervenir dans une classe où son propre fils était élève. C'est extrêmement... Voilà, comme vous le disiez, c'est-à-dire il y a des souterrains, des souterrains qui parfois nous ramènent un peu au grand jour, et c'est bouleversant. Svetlan Todorov, aujourd'hui, a choisi de nous lire deux extraits, je crois, des âmes mortes. Comme toujours, j'ignore lesquels. Comme toujours, la seule règle qui présidera à notre rencontre sera celle de la libre improvisation. Je suis donc enchanté de découvrir avec vous quels sont les deux extraits dans cette œuvre plus que foisonnante et d'ailleurs inachevée, mais nous en reparlerons. Svetlan Todorov a choisi de lire devant nous aujourd'hui. Et je lui cède la parole.
Merci. J'avais l'impression que cette soirée était consacrée à Gogol et jusque-là, elle était consacrée à ma personne et je suis quand même... Un tout petit monsieur comparé à monsieur Gogol. Je voulais vous dire aussi que ce n'est pas seulement un compliment que de dire à quelqu'un « Oh, je vous connais depuis 50 ans. Je suis encore plus vieux que 30, vous. »
35. Je vous retourne le compliment.
Et... Sinon, pour ce qui concerne l'écrivain, moi je ne protesterai pas, mais pour moi c'est un peu trop flatteur, c'est tout. Si vous me dites que je suis un écrivain, j'en suis ravi. Alors, Gogol, c'est avec un peu d'inquiétude et de frémissement que je... m'apprête à vous lire des pages de Gogol parce que je ne suis pas un acteur non plus. Déjà, je n'étais pas sûr d'être un écrivain, mais vous me dites que oui, mais ça ne fait pas de moi un acteur.
Mais vous êtes en tout cas incontestablement un grand lecteur, Svetlan Todorov.
Ah, je suis un
peut-être
lecteur.
Peut-être à voix basse, mais un très grand lecteur.
Peut-être trop. Mmh. Je passe ma vie dans les livres des autres, mais c'est un peu ma profession. Donc... quand j'ai appris que je devais lire quelques extraits, j'ai pensé aux pages qui me touchent le plus directement quand j'ai lu Les âmes mortes. Les âmes mortes sont un livre que j'ai lu il y a une éternité, il y a 60 ans, et je le lisais en russe, parce que je vivais dans mon pays natal, qui est la Bulgarie. Mais je faisais des études dans un lycée où tout était enseigné en russe, donc aussi la littérature, et notamment la littérature russe, bien sûr. Et on était encouragé à lire ces textes dans la langue d'origine. Et je l'ai lu en français l'année dernière, en vue de cette rencontre avec organisée par les éditions Flammarion. Je gardais un souvenir ému des âmes mortes qui avaient été ranimées à plusieurs reprises par des adaptations théâtrales, parce qu'il en existe aussi. Mais je n'avais pas lu le tout. Et donc, j'ai lu du début à la fin, avec des souvenirs qui revenaient, et puis d'autres réflexions auxquelles je ne m'attendais pas, notamment parce que Les âmes mortes, je ne sais pas si c'est suffisamment frais dans vos souvenirs, mais Les âmes mortes a été publié d'abord uniquement dans sa première partie. Et la partie deuxième, voire troisième, parce qu'il y avait des projets de ce genre, Gogol n'en était pas satisfait. Et peu avant sa mort, il a brûlé toute la deuxième partie. tout ce qu'il avait rédigé jusqu'à ce moment. Ces textes ont été donc reconstitués à partir de ses brouillons après sa mort par ses admirateurs. Et il y a des différences entre les deux parties sur lesquelles on reviendra peut-être plus tard. Le premier extrait que je voulais vous lire est lié à la grande intrigue des âmes mortes, celle qu'évoque le titre. Vous le savez sûrement, Tchitchikov, un personnage sans prétention, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Tchitchikov visite une région et demande à tous les propriétaires d'âmes, c'est-à-dire de serfs, il leur demande s'il n'y a pas eu des personnes qui sont mortes depuis le dernier recensement. Si oui, eh bien, leur dit-il, je vais vous soulager, vous n'aurez plus à payer des impôts sur cette propriété, et vous me les vendez nominalement, évidemment pour rien, parce que dans le projet de Tchitchikov, s'il possède ces âmes qui en réalité sont mortes, mais sur le papier elles sont vivantes, il pourra emprunter de l'argent, acheter des terres, bref, s'enrichir. Le rêve de Tchitchikov. Donc il visite les propriétaires terriens les uns après les autres, avec un succès variable selon les individus. C'est la partie la plus connue du livre. Et parmi ces personnages, il y a un qui me touche particulièrement, je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils sont cinq en tout, les propriétaires qu'il visite. Donc il va de l'un à l'autre, ils sont chacun plus pittoresques que le précédent, des personnages énormes, un peu hyperboliques. Et celui auquel je vous convie donc maintenant s'appelle Sobakevitch. Sobakevitch, sabak en russe veut dire chien. Mais il ressemble non pas à un chien, mais à un ours. Une sorte de personnage massif, très malin, et qui fait semblant d'être simple. Je vais vous lire quelques brefs extraits de la rencontre avec Sobakevitch. Tchitchikov est donc chez lui, dans sa maison. Pavel Ivanovitch, c'est le nom de Tchitchikov. Pavel Ivanovitch jeta un regard sur les murs. Tout était gros, massif, lourd, ressemblant d'une manière frappante au maître de la maison. Dans un coin du salon, il vit un grand bureau, meuble énorme, en noyer, monté sur quatre pieds qui rappelaient les pattes d'ours. La table, les fauteuils, les chaises manquaient de légèreté, de commodité. Tout dans la pièce paraissait dire « Moi aussi je suis Sobakevitch. Je ressemble étonnamment à Sobakevitch. Nous avons parlé de vous chez le président du tribunal, Ivan Grigorievitch, » dit enfin Tchitchikov, voyant que personne n'entamait la conversation. « C'était jeudi dernier. J'y ai passé une heure très agréable. »«
Je ne suis pas allé ce jour-là. » Sobakevitch.
Un homme charmant.
Qui sera ? Demanda Sobakevitch en regardant le coin de la cheminée.
Mais le président du tribunal ?
Oh, vous l'avez mal senti. C'est un imbécile comme il y en a peu.
Tchitchikov fut stupéfait par ce jugement quelque peu vif, mais se dominant, il continua. Certes, personne n'est sans défaut. En revanche, le gouverneur, quel excellent homme.
Le gouverneur?
Oui.
Le plus grand bandit que je connaisse. Le gouverneur, un bandit?
S'écria Tchitchikov, s'efforçant de comprendre la justesse de ce jugement.
J'avoue que je ne l'aurais pas pensé, continua-t-il. Mais permettez une observation. La manière dont il agit dans sa région contredit votre assertion. Au contraire, il a beaucoup de douceur. Puis Tchitchikov parla des porte-monnaies que le gouverneur avait
brodé lui-même et affirma la bonté de l'expression de son visage.
« Une tête de bandit !» s'écria Sobakevitch. « Donnez-lui un couteau et lâchez-le seul sur la grande route, il tuera, assassinera pour un copec. Lui et le son vice-gouverneur, mais ce sont Gog et Magog. Décidément, il n'est pas bien avec eux, se dit Pavel Ivanovitch. Je vais lui parler du préfet de police, il est son ami, je crois.
D'ailleurs, continua-t-il tout haut, cela m'est égal. Le préfet de police est un homme bien supérieur à eux, un caractère droit, ouvert, un cœur admirable.
Une fripouille, dit Sobakevitch froidement. Il vous vendra, vous trompera, et puis acceptera de dîner avec vous. Je les connais tous. Toute la ville est faite de canailles qui s'attirent et se chassent. Tous des Judas. Un seul est honnête, le procureur. Et encore, à vrai dire, c'est un cochon.
Je saute maintenant quelques paragraphes. Et j'arrive au dîner, parce que après la conversation libre sur les vertus des habitants de la ville, on passe à table.
La soupe aux choux est excellente aujourd'hui, ma petite âme.
Ma petite âme, c'est son épouse, dit Sobakevitch en se servant du gnagne, méconnu que l'on mange avec la soupe et qui est fait de poitrine de mouton, de pied de veau, de cervelle et de sarrasin. Assez costaud.
Vous ne trouverez pas pareil gnagna en ville, continua-t-il en s'adressant à Tchitchikov. Le diable sait ce qu'il vous donne là-bas.
La table m'a paru bonne chez le gouverneur, répondit Pavel Ivanovitch, qui essaie toujours de bien faire.
Savez-vous comment on y fait la cuisine? Si je vous l'apprenais, vous ne pourriez plus rien y manger.
J'ignore en effet comment ils la font, mais leurs côtelettes de porc, leurs poissons étaient très appétissants.
Oh, ils vous ont paru bons, mais je sais ce qu'ils achètent au marché. Sa canaille de cuisinier, qui a appris son métier chez les Français, achète un chat et après l'avoir égorgé, vous le fait prendre pour un lièvre.
Tais-toi, quelle horreur, fit la maîtresse de la maison.
« Que veux-tu, petite âme? Je dis la vérité. Ce n'est pas ma faute. Tout ce que notre Akoulka jette, permettez-moi de le dire, dans la fosse aux ordures, eux le fourrent dans leur soupe, et voilà leur potage. »«
Oh, tu n'en diras jamais d'autre à table, » remarqua encore Féodoulie Ivanovna.
« Mais, petite âme, » reprit Sobakevitch, « pense donc si moi je faisais pareille chose. Jamais je ne... » mangerai de telles cochonneries. Sucre-moi des grenouilles, je n'y toucherai pas. C'est toujours les Français qui prennent. Et quant aux huîtres, je les refuserai aussi. Nous savons ce qu'elles valent, les huîtres. Prenez donc de ce mouton, Pavel Ivanovitch. C'est très bon avec ce sarrasin. Ce n'est pas cet horrible fricassé comme ils la préparent dans leur sale cuisine riche avec de la viande qui a traîné 4 jours sur l'étal de boucherie. Ce sont leurs docteurs allemands et français qui ont inventé cela. Je les pendrai, ces animaux, avec leur diète. Ils soignent en faisant mourir de faim. Cela peut leur suffire avec leur tempérament mou d'allemand, mais nos estomacs russes sont trop solides pour se contenter de leur régime. Ces combinaisons-là ne me vont pas. Sobakevitch eut un geste violent. Ils ne font tous que crier « Civilisation, culture !»
J'appellerai ça d'un autre nom, mais ici à table, ce serait inconvenant. Chez moi, ça se passe autrement. Quand j'ai du porc, marche. Quand l'on mange tout le porc qu'on sert, pour le mouton, la même chose, et pour une oie aussi. Quand je mange 2 plats, je les mange bien à fond. Et la fin maintenant, c'est le début de la conversation sur l'achat des âmes mortes. Quant à l'objet principal de sa visite, Pavel Ivanovitch en parla avec beaucoup de prudence. Il qualifia les âmes d'inexistantes, non de mortes. Sobakevitch écoutait toujours la tête inclinée, sans un seul mouvement qui changea l'expression de sa figure, Il semblait que l'âme avait quitté ce corps, ou plutôt qu'elle se trouvait là où elle n'aurait pas dû être, comme chez l'immortel caché, c'est un personnage des contes, recouverte par une écorce si dure et si épaisse que sa manifestation devenait impossible à la surface. « Et alors ?» demanda Tchitchikov, attendant non sans émotion la réponse.
« Vous avez besoin d'âme morte ?» fit Sobakevitch aussi naturellement que s'il se fût agi de blé.
« Oui, » répondit Pavel Ivanovitch, et adoucissant son expression, il ajouta « des âmes inexistantes ».
On en trouvera, pourquoi n'en trouverait-on pas?
Alors, si vous en trouvez, fit Tchitchikov, il vous sera sans aucun doute agréable de vous en débarrasser.
Je suis tout disposé à vous les vendre, déclara Sobakevitch en relevant un peu la tête, comprenant que l'acheteur devait tirer de l'affaire quelque avantage.
Fichtre, s'est dit Tchitchikov, il se prépare déjà à la vente avant même toute explication. Puis il ajouta à haute voix, « Quel sera votre prix ? Quoique la marchandise soit telle que parler de prix peut paraître étrange.
Oh, je n'exagère pas en vous demandant 100 roubles par âme, » répondit Sobakevitch.
« 100 roubles ? » s'écria Tchitchikov pétrifié. Et il fixa son ami, ne sachant s'il avait mal entendu ou si dans sa lourdeur, la langue de Sobakevitch n'avait prononcé un chiffre pour un autre.
« Cela vous semble donc très cher, mais quel serait votre prix ?»«
Mon prix ? Mais il y a malentendu. Nous ne nous comprenons pas et avons oublié l'objet de la vente. En toute sincérité, 80 copecs me paraît un prix superbe. »«
Mais que voulez-vous que je fasse avec vos 80 copecs ?»«
Je ne puis donner davantage en toute pensée honnête. »«
Moi, je ne suis pas un vendeur de bottes. »
Pardon, je ne vous achète pas des êtres vivants.
Trouvez donc un imbécile qui vous vendra 80 copecs une âme inscrite dans les listes de contrôle.
Mais ces âmes n'appartiennent plus au recensement. Elles sont mortes depuis longtemps et n'existent que par l'impôt que vous avez à payer. D'ailleurs, je n'ai plus rien à ajouter. Je vous offre 1,5 rouble, pas davantage.
« Vous n'avez pas honte de m'offrir une pareille somme. Ne marchandez pas. Fixez un prix convenable. »«
Impossible davantage, Mikhail Semyonovitch. En toute conscience, je ne puis. À l'impossible, nul n'est tenu. » Et cependant, il ajouta encore 50 copecs.
« Mais pourquoi faire ainsi l'avare ?» dit Sobakevitch.
« Vraiment, ce n'est pas cher. Un autre vous trompera. » Vous vendra de la saleté et non pas des âmes. Ma marchandise est unique, sans valeur. Quand ce n'est pas un robuste gaillard, il aura toujours d'autres qualités. Voyez vous-même le carrossier Mikheyev. Toutes ces voitures sont à ressort. Et ce n'est point du travail à la moscovite. Après 24 heures, il n'y a plus rien. Non, c'est d'une solidité. Lui-même tapissera et vernira le tout. Tchitchikov voulut observer que Mikheyev était mort depuis longtemps. Mais rien ne pouvait plus arrêter Sobakevitch, devenu brusquement bavard, et dont les paroles coulaient en flux ininterrompu.
L'affaire sera quand même conclue, de fait. Mais si je me souviens bien, la négociation avait commencé avec 100 roubles par tête, et ils finiront par s'entendre à 2,50 roubles, je crois.
Voilà, oui.
C'est ça, 40 fois moins, donc.
Oui. Voilà. Il aura fallu que Sobakevitch se lève, mette son manteau, appelle son cocher pour que ça soit à la limite. Bon, asseyez-vous, vous ne voulez pas les avoir pour 50, etc. Jusqu'à 2,5 roubles.
40 fois moins, parce que oui, Sobakevitch est particulièrement coriace en affaires. En fait, l'ensemble du roman, de cette partie-là du roman, fonctionne sur une série de répétitions, de scènes et de variations sur une situation fondamentale analogue, qui est celle, effectivement, de la demande adressée par Tchitchikov à des propriétaires terriens, auxquels il souhaite acheter, ou plutôt par lesquels il souhaite se faire offrir gratuitement ses âmes mortes. Et de ce point de vue, Sobakevitch est effectivement un des chapitres les plus réussis, parce que le personnage est particulièrement inattendu et imprévisible. Oui. Le personnage du vieil avare, par exemple, qui succédera à Sobakevitch dans la négociation un peu plus tard, est superbe aussi. C'est un des grands personnages d'avare de la littérature. Mais là, pour le coup, son identité d'avare est posée d'entrée de jeu, alors que Sobakevitch est un personnage assez
il a l'air grossier, il a l'air mal luné. Or, il est d'une habileté extraordinaire, on s'en aperçoit, il comprend tout demi-mot, il est très intelligent. Donc, il continue. Parmi les autres personnages, en fait, on les sépare habituellement en deux séries qui alternent. Donc, où il y a les pseudo-généreux, ce sont Manilov et Nozdryov. On a parlé de cette double prononciation. Et puis, il y a les avares, qui sont Karobotchka, la femme qu'il rencontre au début, et Sobakevitch. Plushkin est à la fois un avare et quelqu'un qui détruit tout autour de lui. Il a une telle passion d'accumulation des biens qu'il n'en fait rien, alors que Sobakevitch s'enrichit, il vit bien. Il mange aussi comme un Gargantua à peu près. C'est les descriptions, là j'ai coupé plusieurs pages où il consomme d'abord le mouton, ensuite l'oie, ensuite le poisson. Enfin, c'est une véritable...
C'est un ogre, oui.
C'est un ogre.
Oui, effectivement, finalement Tchitchikov se rendra au tribunal pour faire légaliser les ventes, il tombera sur Sobakevitch qui s'y trouve déjà. Et à la suite de la légalisation, pour fêter ça, le président du tribunal invite tous les présents et les témoins à s'inviter chez le commissaire de police, qui, dit Gogol, est un faiseur de miracles qui a toujours de quoi faire la fête chez lui. On vous laisse deviner comment il se fait que le commissaire de police, le vrai père de la ville, a toujours de quoi festoyer chez lui. Mais effectivement, en 2-3 mouvements, on improvise une sorte de fête plantureuse, avec pâté, avec spécialité tout à fait russe, et notamment avec un énorme esturgeon. Et si je me souviens bien, Sobakevitch, qui dit tellement de mal de la cuisine qu'on fait en ville, pendant que les autres discutent en le dos tourné et en sont encore au petit four, dévore à lui tout seul tout l'esturgeon. Il n'en laisse absolument rien. C'est ce genre de personnage. Mais au fait, vous avez dit qu'il a tout d'un ours. Et effectivement, physiquement, il fait penser à un ours. Il est puissant, il est énorme, il est en très très bonne santé. Une santé que tout le monde lui envie. Son appétit est absolument incroyable. Et puis, il a cette espèce de brutalité, de balourdise rusée.
Il marche sur le pied des gens, habituellement.
Il écrase, c'est un grand écraseur de pied. C'est son premier trait, oui. Un très grand écraseur de pied. Quand il veut poursuivre la conversation avec vous, si vous vous levez trop vite, il vous marche sur le pied. Obligé de vous rasseoir, il s'excuse, mais il vous a eu. Mais pourtant, il s'appelle Chien, effectivement. Évidemment, pour quelqu'un qui n'est pas russisant et qui ne connaît pas très très bien les racines populaire ou folklorique de ce genre de détails, c'est un peu une énigme, ce chien qui est en même temps un ours, ou cet ours-chien.
Il faut dire que les noms sont parfois signifiants chez Gogol, mais aussi que les noms dont il affuble ces personnages sont entrés dans la langue, parce que ce sont toujours des personnages excessifs, et donc incarnent à l'extrême un type psychologique. Manilov, c'est le bonimenteur, toujours rempli de bons sentiments, mais où rien ne se réalise jamais. Nozdrev est une sorte de canaille pseudo-fraternelle, fait semblant d'être aimable et ami avec tout le monde, mais en réalité, il va provoquer d'ailleurs la perte de Tchitchikov en dévoilant les dessous de sa démarche. Donc, tous ces personnages sont
très marqués. Ils constituent une sorte de galerie de portraits inoubliables. C'est un peu ce qu'on retient généralement des âmes mortes.
Est-ce que c'est ça qui vous avait frappé dans votre première lecture?
Ah oui, ma première lecture, au fond, je me souvenais essentiellement de ces cinq scènes. C'est ça qu'on retient, je dirais, en premier, tellement ces personnages sont excessifs, marqués. Ce en quoi, je pense, Gogol s'engage dans une voie qui n'a pas eu beaucoup de représentants qui l'ont précédé en Russie, et qui serait plutôt celle de Rabelais ou de Swift. Il est très loin de tout réalisme. Ce n'est pas du tout dans la veine de Tolstoï, Dostoïevski et Tchekhov. Enfin, encore que Dostoïevski s'en détache aussi par certains côtés, mais ce sont des auteurs qui représentent le monde russe avec beaucoup de détails véridiques, alors que chez Gogol, on est immédiatement dans les normes.
À vrai dire, quand on le lit pour la première fois, quand on lit ce roman pour la première fois, personnellement, les premiers rapprochements, les premières suggestions qui me sont venues à l'esprit, elles étaient plutôt d'ordre pictural. J'ai pensé à Goya. Ça m'a fait penser effectivement à cette espèce de truculence, d'excès monstrueux et en même temps toujours reconnaissable et ancré malgré tout dans une réalité, mais une réalité de cauchemar. Ça m'a fait penser à certaines gravures de Goya. Mais c'est vrai que dans la tradition russe, finalement, il n'aura pas laissé une postérité si éclatante.
Peut-être Bulgakov.
Et Nabokov, peut-être ? Un certain Nabokov ?
Un certain Nabokov. Peut-être Bulgakov, qui écrit des romans fantastiques sur le quotidien moscovite et russe en général, Cœur de chien, etc., qui évoque un peu cette fantaisie débridée qui est celle de Gogol et qui le met très loin de la veine réaliste, que lui-même a pourtant inauguré à travers ce qu'on appelle les récits de Pétersbourg, le manteau, le nez et d'autres, encore que le nez, ça sera aussi déjà un texte fantastique, puisque le nez se détache, devient un personnage à lui tout seul. Non, il dépasse tout, il déborde de partout.
D'ailleurs, dans votre... Oui, j'aurais aussi pu commencer par là. Bien entendu, les raisons pour lesquelles Svetlana Todorov apprécie ou aime les âmes mortes, il a l'occasion d'en parler dans une interview introductive que vous trouverez dans l'édition procurée chez Garnier Flammarion, qui, comme toujours, chez Garnier Flammarion, vous connaissez la qualité de la collection maintenant depuis des années qu'on en parle, s'accompagne d'une bibliographie tout à fait à jour, d'une chronologie, d'une introduction très conséquente et très éclairante, et le tout pour 8,10 €, ce qui franchement, une fois encore, au prix de la cigarette, ça reste... Quant aux les nouvelles de Pétersbourg, vous les aurez pour 3,40 €. Alors vous voyez, pour moins de 15 €, vous êtes vivement encouragé à lire les œuvres dans l'ordre chronologique, qui plus est. Et effectivement, dans les nouvelles de Pétersbourg, vous avez des chefs-d'œuvre comme Le Nez, Le Journal d'un Fou ou Le Manteau, qui à L3 aurait suffi à assurer la célébrité et la survie de Gogol. Mais le fait est que ce très jeune auteur, après ses nouvelles, a demandé à s'illustrer dans un genre plus massif, plus important, plus conséquent, et est allé trouver son excellent ami Pouchkine, en lui demandant un sujet. D'ailleurs, Pouchkine lui avait déjà fourni un sujet.
Il lui avait déjà fourni un sujet, mais là, il lui a donné l'idée des âmes mortes. Oui. Mais Pouchkine n'aurait pas écrit les âmes mortes.
Il n'aurait pas écrit cela.
Non. Les âmes mortes, dont j'enchaîne sur un autre aspect du livre, les âmes mortes donc sont parues sous cette forme. Donc il faut vous dire que les ventes, tout cela ne va pas bien se terminer, et Tchitchikov, à la fin de la première partie, est obligé de fuir. Il s'en va. Mais les âmes mortes suscitent beaucoup de jugements laudatifs, beaucoup d'admiration, mais en même temps, il y a des critiques qui sont adressées à Gogol. Comme avec les livres précédents, on trouve qu'il a un esprit trop mal tourné, qu'il ne voit que ce qui ne va pas en Russie. Et donc, à l'intérieur même du livre, il évoque ce problème, le problème de l'écrivain qui dit du mal de l'humanité et qui, pour cette raison, est mal aimé. C'est mon deuxième choix.
C'est le chapitre 11, je crois.
C'est au chapitre 7.
C'est le 7.
Le début du chapitre 7. C'est une sorte donc de réflexion sur la littérature et non pas sur le monde de Tchitchikov et de ses autres propriétaires d'âmes mortes. Heureux l'écrivain qui s'éloigne des âmes tristes, rebutantes, quitte la réalité pénible et dépeint les caractères de belles distinctions. Heureux celui qui, dans les bas-fonds de la société humaine, choisit seulement les natures exceptionnelles, qui ne trahit jamais l'inspiration haute de sa lyre, ne descend pas vers les misérables dépossédés, fuit le vulgaire et s'élance vers les régions éthérées où ne vivent que des êtres de beauté. Son sort est doublement enviable. Il est chez lui, dans ses régions, et les échos de sa gloire retentissent plus loin. Il a mis des voiles lourds devant les yeux des hommes qu'il a flattés, encadrant les tristesses de la vie et peignant uniquement le beau et le noble. Les foules applaudissent et le suivent. Elles le proclament génie universel, dont le vol puissant plane comme celui de l'aigle. À son nom, tous les cœurs s'émeuvent et des larmes d'admiration brillent dans les regards. Il n'a point d'égal, il est Dieu. On sent que c'est pas ça qu'il veut dire. Mais tel n'est point le sort de l'écrivain qui ose étaler ce que des yeux indifférents ne voient jamais. Toute la vase écœurante, horrible des misères de la vie, tout l'abîme de ces natures froides, mesquines, basses que nous rencontrons à chaque pas tous les jours. Ce poète impitoyable met en relief et décrit puissamment cette réalité afin que tous la connaissent. Il ne doit pas compter sur les applaudissements de la foule. Il ne voit jamais ni larmes de reconnaissance ni enthousiasme délirant des âmes. Nulle jeune vierge émue ne court vers lui transportée d'extase, et lui-même ne s'égare point dans le doux oubli des accents enchantés de ses poèmes. Enfin, il ne peut échapper au jugement de ses contemporains, hypocrites et sans conscience, qui condamnent ses œuvres, les rangent au nombre des écrits méprisables, outrageant l'humanité, et nient le cœur et l'âme, la flamme divine qui les inspira. Car ces juges ne comprennent point que le génie est le même quand il chante les soleils lointains ou dépeint la vie des insectes que personne ne remarque, que le talent est grand quand il met au jour ce que l'opinion publique maudit et le transmute en perles de création, que l'éclat de rire puissant et enthousiaste égale le grand geste lyrique et qu'un abîme existe entre ce rire et les odieuses grimaces des charlatans de foire. Non, les juges contemporains ignorent ces vérités et ne cessent d'insulter l'écrivain qui reste seul, privé de sympathie, d'appui, vivant le destin dur et une solitude amère. Quant à moi, longtemps je dois encore voyager avec mes étranges héros, contempler la grande vie qui se déploie aux aspects larges et innombrables, et l'étudier avec un rire qui se communiquera
et des larmes qui seront incomprises, ignorées. Et le temps est encore lointain, lointain où les flots redoutables de l'inspiration pourront rouler avec une puissance plus grande, où les hommes pressentiront en frémissant d'inquiétude le majestueux tonnerre d'autres discours. Mais en route, que fait Tchitchikov? Évidemment, Gogol se reconnaît dans le deuxième écrivain et pas dans le premier, mais j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous ne trouvez pas que de nos jours, on pourrait presque inverser le jugement porté par l'écrivain ici et dire « c'est lui qui décrit les âmes nobles et belles n'a aucune chance d'être entendu, ni même lu, ni mis en scène ». Alors que c'est lui qui nous montre toute la noirceur du monde, qu'est-ce qu'il dit là, ces natures froides, mesquines, basses que nous rencontrons à chaque pas tous les jours, c'est ce qui fait la matière de notre meilleure littérature, non?
Ben, pour ne pas répondre à votre question, Svetlana Todorov, je dirais que ce qui me manquerait davantage, c'est le rire qui accompagne la peinture de toutes ces noirceurs. Que la noirceur soit devenue populaire, que l'horrible et le sinistre soient portés au pinacle, et que l'idéalisation romantique soit aujourd'hui sous le boisseau, et ne connaisse aucun succès, cette inversion a toutes sortes de raisons, qu'elle ne soit pas de votre goût, je le comprendrais, je pourrais le comprendre, mais ce qui me frappe davantage,
c'est la troisième possibilité.
C'est que chez Gogol, n'appelons pas cela ce réalisme, mais ce souci de l'insecte, du poète impitoyable, s'accompagne de rire. De rire d'ailleurs qui ne va pas sans larmes à la fin de l'extrait. Et l'autre chose qui m'a frappé alors que vous le lisiez, c'est que si le rire énorme est quelque chose qui semble pouvoir se propager et se communiquer, les larmes en question, j'ai l'impression que l'auteur se les réserverait presque. C'est très étrange. J'ai eu cette impression en vous entendant.
Oui, vous avez tout à fait raison. Et lui-même se place en dehors de cette alternative, on dirait. Quant à moi, donc, l'étudier avec un rire et des larmes. Il veut garder les deux, enfin, mais pas tout à fait les deux. Il veut pleurer devant la vilenie humaine et rire devant les efforts pour la dissimuler.
Oui, et dans ces interventions qui interviennent comme des espèces de bouffées presque tectoniques à certains moments, là où nous sommes au début du chapitre 7, j'avais pensé au chapitre 11, parce que là aussi il y a une intervention très importante et une réflexion esthétique importante, notamment sur le statut du personnage et l'attente du lecteur par rapport au personnage et la déception du lecteur par rapport au personnage présenté. Je me suis perdu dans ce que je voulais dire, mais ce qui est frappant, c'est que cette voix qu'on entend, cette voix narrative, ce jeu qui surgit, et qui d'emblée a qualifié ce texte de poème, non pas de roman, semble être aux prises avec, ouvertement aux prises avec un work in progress, avec un texte qui se présente comme inachevé, comme un travail en cours, le long de la route. Alors, la métaphore de la route dans le grand roman 19e, pour décrire l'itinéraire narratif, elle est fréquente, on connaît la fameuse image de Stendhal, le miroir, le long du chemin. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas de miroir, il n'y a que la route. Et Gogol semble dire qu'au fond, lui-même, auteur, n'a d'autre choix que de suivre son personnage, et de ses personnages, jusqu'où ils le conduiront, le long de cette grande route.
Donc c'est peut-être le moment d'évoquer un peu plus généralement le destin de Gogol et le destin du livre. Donc cette seconde partie que Gogol n'appréciera jamais assez, qu'il va brûler, que ses proches ont reconstitué. Et on comprend un peu, en lisant les textes qui la forment aujourd'hui, les raisons de cette difficulté. C'est que, dans la seconde partie, Tchitchikov rencontre des propriétaires terriens qui ne sont pas ridicules, qui ne sont pas grotesques, qui ne sont pas hyperboliques. Costa Jonglot, en particulier, le plus important parmi eux, est une sorte d'idéal conservateur dynamique que Gogol offre à son lecteur comme une voie que l'on doit emprunter désormais. Et le génie de Gogol n'y est plus. Le génie de Gogol est dans cette extrême stylisation, dans cette poussée à l'extrême des caractères humains. Et lorsqu'il doit proposer un exemple à suivre, ça devient une forme de sermon, un peu, enfin, de vraiment d'indication du comment bien faire, de catéchisme presque. Et donc, ça ne passe pas. Oui, et sans doute, c'est... lui-même le sentait ainsi.
Pour reprendre la formule célèbre, on ne fait pas de bonne littérature avec des bons sentiments, mais c'est comme si pendant 10 ans, Gogol s'était acharné à démontrer le contraire. C'est assez frappant.
Et il n'y est pas arrivé. Mais son talent, sans doute, est d'un certain type. On peut imaginer qu'il y ait des personnages moins grotesques que Plushkin, Sobakevitch et Nozdrev, mais ce n'est pas du ressort de Gogol. Donc, il a bien fait de brûler. Et on pense aussi qu'il devait verser beaucoup de larmes. Gogol était un homme mélancolique qui était torturé par ce qu'il voyait, mais qui savait lui donner une forme extraordinaire, un peu comme il le dit là dans les derniers mots de ce passage. Il transmue en perles de création, il transmue en perles. Ce qui, c'est un peu comme Baudelaire écrivant dans la préface abandonnée des Fleurs du Mal, évoquant ce travail d'alchimiste. Tu m'as donné de la boue et j'en ai fait de l'or. C'est un peu cela le sillon que creuse aussi Gogol.
Oui, à propos de boue, justement. C'est une sorte de... C'est Come on the Road de Kerouac, qui aurait peut-être été amusé du rapprochement. Le poème de Gogol, c'est un terme sur lequel on pourrait revenir, celui de poème, parce que quand on le lit, ce n'est pas frappant. On croit vraiment lire une sorte de roman satirique étrange. C'est quand même un texte qui suit un personnage qui se promène de tant bien que mal dans la campagne russe, près d'une ville non identifiée, N. Et qui va par les chemins et qui fait des rencontres sur les chemins et dont parfois la britchka, une sorte de
c'est bien comme ça, carrosse,
une sorte de carrosse étrange, verse en plein champ, il se retrouve crotté, couvert de boue. D'autres fois, enfin, c'est très étrange. On circule sur une route tout au long du roman, on circule sur une route. Parfois, on revient en ville, on y fait signer des papiers, on donne un bal, puis on repart sur la route. Et à la fin de cette première partie, qui devait être la seule à être achevée, il y a une sorte d'envolée lyrique tout à fait étrange, extraordinaire.
Très célèbre.
Qui associe le destin de la Russie, le tourbillon qui va l'emporter, le destin du personnage et la suite, l'appel d'une sorte de route. Quelque chose d'extrêmement dynamique. Et effectivement, quand on lit les fragments de la deuxième partie, c'est comme si cette boue du chemin, en devenant la boue, la terre fertile des propriétés, la terre dans laquelle on s'enracine, c'est comme si tout d'un coup cette boue, tout d'un coup collait collait le personnage.
Le britschka ne roule plus.
Ça ne roule plus. Ça ne roule plus. Ça n'avance plus. Ça n'a plus de dynamique. Et le fait est que quand Gogol veut se transformer en maître de morale et en donneur de leçons, la deuxième partie, le contraste est stupéfiant.
Le contraste est extraordinaire.
Oui, il est stupéfiant. Il est désespérant parce qu'effectivement, on a le sentiment d'un auteur qui cherche désespérément à lutter contre son propre génie. Mm. C'est très, très frappant.
Et Balzac, qui est un peu contemporain de Gogol, même assez exactement contemporain, dit dans une préface ou un postface, tout un chacun aime lire l'enfer de Dante, on s'ennuie devant le paradis. Seul le mal attire les lecteurs. Aucun succès n'est promis à celui qui veut chanter le bien. Quel dilemme affreux. Puisque Balzac, il y a une sorte d'usine de production d'œuvres, il s'est rendu compte qu'il n'y a aucune chance de bien gagner sa vie si on dit le bien. Ça ne se vend déjà pas bien du tout. Déjà en France, ce que Gogol décrit n'est plus vrai. On préfère lire la dénonciation que les propos bénis, oui.
Oui, on préfère en tout cas, déjà du temps de Balzac, effectivement, on sait satisfaire les goûts plus ou moins sadiques,
des lecteurs.
La propension plus ou moins cruelle du lecteur. On sait jouer avec la cruauté.
Mais sinon, Gogol, oui, vous avez évoqué, c'est très connu, effectivement, à la fin de cette première partie, il y a cet appel à la voiture qui s'élance sur la route et qui, petit à petit, est confondue avec la Russie et le destin de la Russie. Et je pense que c'est là qu'on comprend un peu le terme de poème. Ces aventures sordides de Tchitchikov sont englobées dans une vision lyrique. Et ce lyrisme concerne la Russie. Et Tchitchikov rêve à une meilleure Russie. Si on essaye de mettre un contenu politique ou social derrière ces rêveries, on se rend compte que Gogol, qui est ukrainien, n'est pas du tout séparatiste. Il est nationaliste russe et conservateur bien établi. Il faut rétablir la religion, ne pas moderniser, etc. Donc il serait mal vu par ceux qui l'ont porté au nu, Belinsky et la critique libérale de son temps, qui a vu en lui la compassion pour les humiliés et les offensés, comme Dostoïevski va intituler son récit. Dostoïevski, dont les premiers récits sont entièrement marqués par l'influence de Gogol, de Le journal d'un fou, Le manteau, Le nez, etc. Ces récits de Pétersbourg, ça se prolongera dans l'œuvre de Dostoïevski, première manière.
À propos du personnage de Tchitchikov et à propos plus généralement des interprétations qu'on a essayé de donner aux âmes mortes, c'est un texte qui a, comme c'est une œuvre ouverte, une œuvre inachevée, et comme c'est une œuvre où interviennent plusieurs voix à différents moments, parfois il y a une voix de simple narrateur qui raconte des histoires. Vous avez vu que Gogol est un excellent dialoguiste, ce n'est pas étonnant que ça ait été adapté au théâtre si souvent. Il suffit de prendre des dialogues et vous avez des scènes remarquables. Parfois, vous avez une voix lyrique qui intervient et une voix satirique, mais au sens juvénalien du terme. Une voix qui, tout d'un coup, s'élève pour introduire un point de vue moral. Mais cela étant, dans cette multiplicité de points de vue, cette multiplicité de voix et cet inachèvement du projet, l'œuvre, donc, a donné lieu à beaucoup d'approches et de lectures très différentes. Ce qui m'a frappé en le relisant pour cette rencontre, c'est que cette... Je me suis demandé si cette ouverture-là n'était pas au départ constitutive du projet et si Gogol, pour toutes sortes de raisons, n'avait pas comme lui-même perdu son projet en route. Je m'explique. Je veux dire que le personnage de Tchitchikov est un personnage éminemment projectif. On peut projeter sur lui ce qu'on veut. Il n'est ni grand ni petit, il n'est ni gros ni maigre, il n'est jamais décrit physiquement, il n'est ni trop âgé ni pas assez, il est beaucoup décrit en termes finalement négatifs qui permettent au lecteur ou à la lectrice de projeter sur lui un peu ce qu'on voudra. Et le fait est qu'après ses aventures, et par ailleurs, Tchitchikov, dans ses entretiens, est quelqu'un qui ne cesse de s'adapter aux différents monstres qu'il rencontre. C'est quelqu'un qui se moule sur l'interlocuteur ou sur l'adversaire, qui veut extraire les âmes mortes, mais qui finalement ne témoigne jamais de goût personnel, de manière personnelle, de style personnel, ou assez rarement. Et puis c'est un personnage qui va être à la mode, c'est-à-dire que les femmes vont commencer à projeter sur lui un personnage qu'il n'est pas, ou qu'il est peut-être aussi, puis la rumeur va s'emparer de lui.
Un peu comme pour le réviseur.
Oui.
On le prend un peu pour un réviseur, en quelque sorte.
Voilà, on le prend pour une sorte de point de projection sur lequel on peut fantasmer. Et ça ira jusqu'au point où, dans des pages incroyables, je crois que c'est dans le chapitre 10, dans la ville, la rumeur... On finit par se demander quand même qui est Tchitchikov, hein, pour toutes sortes de raisons. On se rend compte au bout de 10 chapitres, dans cette petite ville, qu'on ne sait pas qui il est, qui est Tchitchikov. Les fonctionnaires se rassemblent, le directeur des postes est là, différentes hypothèses commencent à fuser, toutes plus délirantes les unes que les autres, et on en arrive même à supposer que Tchitchikov est peut-être Napoléon. Napoléon, échappé de Sainte-Hélène, hein, et qui serait venu jusqu'en Russie se réfugier, et qui par ailleurs est aussi l'antéchrist. Enfin, ça devient proprement stupéfiant.
Délirant,
oui. Ça devient délirant, et le fait est que au bout de ces 10 chapitres, nous, lecteurs, on se dit, mais c'est vrai, au fond, qui est Tchitchikov ?
Oui. Je crois que Tchitchikov, enfin, comme vous l'avez dit, est une sorte de personnage gris, neutre, dont on a besoin pour que tous les autres, excessifs, puissent prendre toute leur dimension. Tchitchikov cède à tout moment, il est poli, il ne s'affirme pas, il ne s'affirme que dans sa réceptivité, mais il n'affirme rien. Mais plus généralement, pour l'interprétation des âmes mortes, je pense que Gogol avait probablement des idées qu'il voulait illustrer, mais que son instinct artistique a été suffisamment fort pour ne pas étouffer son projet sous une démonstration quelconque d'une pensée sociale ou politique ou religieuse. Et donc, il nous lâche avec cette fantasmagorie, ce monde où les personnages sont plus gros que la nature, où ils existent à peine, ce qui est le cas de Tchitchikov. Les autres existent trop, et lui, c'est presque évanescent. Et donc, nous sommes laissés un peu à la fin avec cet objet extraterrestre. Et on doit essayer d'en faire quelque chose, de lui donner du sens, de lui trouver une place. Mais pas forcément de le réduire. Ce n'est pas facile de le réduire à une idée quelconque. Je lisais comme vous les différentes interprétations qui ont été données de ce livre, pourquoi pas, mais pourquoi pas d'autres aussi. C'est un ovni qui ne ressemble à rien d'autre.
Oui, d'ailleurs, c'est la phrase par laquelle vous décririez effectivement le roman à un jeune homme ou à un jeune lecteur ou une lectrice d'aujourd'hui. Si vous aviez quelque chose à dire sur ce roman, si vous deviez présenter ce livre à un adolescent d'aujourd'hui, que lui diriez-vous ? Là, généralement, les auteurs interrogés ont au moins un bon paragraphe. Ils savent très très bien ce qu'ils diraient à un adolescent d'aujourd'hui. Et vous, très énigmatiquement, ça se réduit à une seule phrase que je vais citer. Vous lui diriez donc ceci, que c'est un livre qui ne ressemble à aucun autre au monde. C'est plutôt énigmatique.
Oui, je m'en tire avec cette pirouette, mais je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de cela. C'est un livre qui ne s'inscrit pas dans une série, même si on peut évoquer, vous dites Goya, on peut imaginer des auteurs aussi. Je mentionnais Rabelais, notamment à cause de ces scènes de Goinfrory chez Sobakevitch, et puis d'énormité toujours. Mais il y a beaucoup de différences. Donc c'est un talent, c'est un météore, Gogol, et son interprétation laisse toujours un peu une marge d'indécision, je dirais, à la fin.
La lecture réactionnaire, entre guillemets, d'un Gogol partisan du servage, d'un retour à la discipline ancienne et au sens religieux, par exemple, ne se laisse absolument pas, ne transparaît absolument pas à première lecture de la première partie. Elle éclate dans la deuxième de façon presque insupportable. Là, pour le coup, c'est des tartines et des tartines. Effectivement, vous avez là un propriétaire terrien à qui tout réussit, une sorte de Midas de la culture. Enfin, dès qu'on passe chez lui, tout pousse mieux qu'ailleurs. Voilà, c'est parce que lui, il sait comment faire. Et Tchitchikov, qui voudrait devenir lui aussi propriétaire terrien, dit « Comment faites-vous ? » Et l'autre s'empresse de le lui expliquer. Donc là, c'est vrai que tout d'un coup, enfin, le contraste avec la première partie est frappante. Mais la première partie... est-elle réactionnaire, est-elle révolutionnaire? Vous avez lu au début du chapitre 7 un moment où Gogol, tout d'un coup prophétique, fait allusion à d'autres voix qui s'élèveront en Russie. C'est tout à fait étonnant. Enfin, on pourrait aussi bien considérer que ce texte-là est déjà une sorte
de révolution.
Oui, d'appel à une colère d'ordre révolutionnaire.
Je pense que l'homme Gogol était un réactionnaire, comme on dit, comme en témoignent certains écrits. Le dernier livre que publie Gogol, qui s'appelle « Passage extrait choisi de ma correspondance avec les amis », est une adhésion à des doctrines politiques. Mais il a eu la grandeur de l'écrivain qui fait qu'il n'a pas soumis son œuvre à quelque idéologie que ce soit. Et donc, effectivement, nous restons là à nous casser la tête et à nous interroger sur ses intentions. Mais en tout cas, l'œuvre vit et on ne l'oublie pas. Une fois lue, je dirais, on n'oublie pas les âmes mortes.
Oui, parce que je crois que c'est au chapitre 11, Gogol, je crois que c'est au chapitre 11, Gogol dit que c'est à la vérité qu'il se doit de rendre des comptes. Cette vérité de l'artiste, c'est ce qui sauve la première partie, et c'est cette vérité-là qu'il semble oublier dans cette deuxième partie, qui, une fois encore, a été publié d'après des fragments survivants contre sa volonté et après sa
contre sa volonté. Donc on ne peut pas l'en blâmer, mais
non.
Mais pour les historiens, ça ajoute à l'énigme.
Il y a un texte particulièrement énigmatique et émouvant dans Les âmes mortes, au chapitre 7. On est à peu près au deuxième tiers du récit. J'aurais voulu savoir ce que vous en pensiez, Svetlana Todorov, parce que c'est un... je pense que ça pourrait résonner avec certains de vos propres textes. Tchitchikov pense enfin avoir triomphé. Il pense avoir réussi. Il a fait valider et légaliser l'achat de ses âmes mortes au tribunal. Il rentre dans sa chambre d'auberge, il s'enferme et... Il triomphe. Il a réussi. Les listes de noms qu'il détient, de ses âmes mortes, sont maintenant une liste d'âmes qu'il possède. Et il les lit. Après les avoir lui-même copiées à la main, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur, et découvrir au passage qu'il s'est fait aussi un peu escroquer en douce, par, notamment par Sobakevitch, qui lui a refilé des âmes qui ne valent rien, des âmes de femmes, des choses comme ça, il s'est fait escroquer.
Comment ose-t-il, oui, oui, oui. Il ne veut pas d'âme.
Oui. Oui, oui, il ne veut pas d'âme-femme. Mais il lit les autres, il lit les autres noms, et il commence à rêver, aux vies qui ont dû correspondre à ces âmes mortes. En parcourant tous ces noms, Pavel Ivanovitch s'attendrissait, il poussa un soupir et se dit « Mes braves, comme vous êtes nombreux, voyons mes petits, qu'avez-vous fait dans votre vie? Quels furent vos efforts pour ne pas mourir de faim ?» Et là, très étonnamment, cet escroc, car c'est un escroc, rêve poétiquement sur ces noms et rêve sur ses destins et imagine des vies minuscules, des vies d'être humble, des vies qui n'ont plus d'autre existence et qui n'ont pas laissé d'autres traces que leur nom sur cette liste détenue par un escroc. Pour moi, c'était un moment proprement vertigineux. C'est toute petite vie d'artisan, il y a un charpentier, par exemple, il y a un forgeron, ce sont des minuscules vies, et l'escroc qui les détient, les rêves, et c'est une sorte d'hommage comme ça qui est rendu assez...
Oui, il est un escroc, mais c'est quand même lui qui a un regard, une pensée pour ses âmes.
Oui.
C'est un bref moment au cours duquel ces âmes continuent de vivre.
Elles vivent, oui. Elles revivent.
Elles revivent.
Sous le regard de l'escroc.
Parce qu'il essaye de s'imaginer Popov, garçon de ferme, doit savoir lire et écrire, n'assassine pas avec un couteau, mais est devenu un voleur d'une façon honnête. Et chacun a une petite histoire. Et on a tout à fait l'impression que c'est Gogol qui parle là, attendri devant l'immensité de la Russie, l'impossibilité d'aider de quelque manière que ce soit, mais au moins il peut les évoquer.
Oui, et les consigner et conserver leur nom dans ce poème.
Voilà.
Svetlana Todorova, je vous remercie.
Mais merci à vous.